Accès libre. Bonjour à tous, bon printemps, que ça fait du bien ce petit rayon de soleil. Merci à vous les fidèles d'Accès Libre qui nous écoutez en direct ou en différé sur la page de l'émission. Bienvenue ici Anne-Laure Janson, il est midi, vous êtes sur Canal M. Et au menu de l'émission, nous vous proposons en table ronde un sujet sur le soutien aux revenus longtemps réclamé par le milieu communautaire. Nous aurons Véronique Vézina, présidente du conseil d'administration de la Confédération des organismes et des personnes handicapées du Québec, la COFAN, et Serge Petitclerc, porte-parole du collectif pour un Québec sans pauvreté, pour nous en parler. Québec veut instaurer un revenu de base pour des personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi. Est-ce une bonne façon de combattre la pauvreté ? Est-ce que Québec va assez loin ? Nos invités, donc, vous feront part de leurs analyses. Mais vous aussi, vous pouvez nous donner votre avis en répondant sur la page de l'émission d'Accès Libre en tapant canalm.vusezvoix.com ou sur nos réseaux sociaux, mot-clic, Canalm, la radio de Vusezvoix. C'est aujourd'hui l'ouverture du défi sportif d'Altergo. Nous en parlerons avec l'escrimeuse Camille Chai. Et savez-vous quoi ? C'est la première fois qu'elle y est. Elle nous décrira donc tout ça avec des yeux tout neufs. Nous retrouvons aussi deux de nos fidèles chroniqueurs, j'ai nommé Franck Bouchard et Jean Lambert, pour parler des services offerts au logement adapté et de procréation assistée. Et oui, tout de suite, je reçois Denis Boudreau, consultant en accessibilité, pour nous parler d'accessibilité numérique à l'ère de l'intelligence artificielle au Canada et au Québec. Il nous donnera l'heure juste sur la position du Canada. Vous allez voir, c'est fou tout ce qu'il est possible de faire. Tout ça sur Canal M, la radio de Vusezvoix. Les technologies reposent sur les promesses de l'intelligence artificielle et sont en voie de radicalement changer non seulement la manière dont nous développons le web, mais aussi comment des millions de personnes handicapées et de populations vieillissantes évoluent dans l'univers du numérique. Bonjour Monsieur Boudreau.
Bonjour, comment allez-vous ?
Ça va bien et vous ?
Merci, très bien, merci.
Alors il y a environ 10 jours, vous avez participé à la conférence WAC 2018 pour Web à Québec, le plus grand événement numérique francophone en Amérique du Nord. Votre intervention s'intitulait « L'accessibilité numérique à l'ère de l'intelligence artificielle ». Quel était votre message si on avait à le résumer en quelques mots ?
Essentiellement, c'était de faire un état des lieux des évolutions, des innovations en matière d'intelligence artificielle dans le domaine de l'accès au web. Ouais. Donc, de voir comment l'intelligence artificielle comme telle aide les personnes handicapées à outrepasser les barrières qui sont couramment rencontrées sur le web dans le cadre de leur navigation sur les différents sites ou plateformes.
Mm-hmm. Et par rapport à tout ça, où on en est au Canada sur les questions d'accessibilité numérique et d'intelligence artificielle? Est-ce que le cadre est propice à l'innovation?
Le cadre est propice, oui, je crois. C'est-à-dire qu'en termes de standards ou de lois comme telles au niveau canadien, il n'y a pas rien de particulier qui encadre le pays comme tel. Mmh. Il existe en Ontario des lois très clairement définies, la LAPHO ou la loi AODA, en fait, le Accessibility for Ontarians with Disabilities Act. J'ai oublié l'acronyme en français, ce que ça veut dire, mais la loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées en Ontario, j'imagine, quelque chose comme ça. Bref, il existe cette loi-là en Ontario où il n'y a rien de tel au Canada. Par contre, au niveau canadien, au niveau fédéral, on a des standards qui assurent que les sites gouvernementaux au niveau fédéral rencontrent les règles d'accessibilité, ce qui aide en partie un citoyen qui aurait un besoin vis-à-vis du gouvernement. Mais il n'existe pas, malheureusement, pour l'instant, de standards comme on a, ou de loi plutôt comme on a en Ontario, qui impose en fait autant au privé qu'au public de produire du contenu accessible. Mm-hmm. Donc, ce qu'on a en Ontario n'existe pas ailleurs au Canada, mais il y a un effort pour tendre vers ça progressivement. Dans la dernière année, on a changé 3 fois de ministre du sport et des personnes handicapées. Donc, dans la dernière année, il y a beaucoup de développement sur cette question-là. Mm.
Et au Québec, en fait, vous disiez, il n'y a pas grand-chose non plus, alors comparé à l'Ontario, au Canada en général.
Non, effectivement. Moi, j'ai contribué au développement d'un standard gouvernemental entre 2007 et 2011 au niveau québécois, qui était piloté à l'époque par le ministère des Services gouvernementaux, qui depuis a été repris par le Conseil du secrétariat, le secrétaire du Conseil du Trésor. Ce standard-là avait été adopté en 2012, devait être évalué autour de 2016, et on est en 2018, et j'ai toujours rien vu de nouveau à ce niveau-là.
Ah.
Donc, il existe quelque chose aussi. Par contre, tout semble se faire à huis clos et très peu est communiqué au niveau du gouvernement québécois sur l'effort en accessibilité pour assurer justement l'accès aux personnes handicapées au Québec.
D'accord, mais on pourrait s'attendre à de bonnes surprises sous peu? Ou ils vous ont
Ben,
pas
si.
recontacté, vous ne savez pas?
Ben, moi, je ne suis pas impliqué dans le processus maintenant, donc je ne peux pas m'avancer sur ce qui est fait ou non. À ma connaissance, il n'y a rien de nouveau qui se passe, donc je ne sais pas, mais j'espère effectivement qu'il se passe quelque chose parce que c'est un sujet évidemment qui est très important.
Et oui, tout à fait. D'ailleurs, j'espère qu'ils ont pu écouter votre conférence. D'ailleurs, est-ce qu'on peut la réécouter? Savez-vous?
À ma connaissance, non. Le contenu de certaines présentations était enregistré sur place. Je ne sais pas si la mienne l'a été. Ce que je peux faire, c'est partager les diapos de la présentation avec vous en suivi de cette présentation-ci, cette entrevue-ci plutôt. Mais à ma connaissance, je ne sais pas que ça a été enregistré.
D'accord, ben oui, pourquoi pas, c'est gentil. Lors de cette conférence, donc, vous avez présenté, une dizaine d'innovations en intelligence artificielle qui changent la vie de tous les jours des personnes en situation de handicap. Si l'on avait à en retenir deux ou trois, quelles seraient-elles?
Ben, une de mes préférées, à cause de l'impact que ça a pour les personnes handicapées visuelles, personnes aveugles principalement, c'est une innovation qui a d'abord été amenée au grand public chez Facebook, qui est la reconnaissance d'images automatique. Donc, par exemple, jusqu'en 2016, quand une personne aveugle naviguait sur Facebook et qu'elle suivait dans son fil de nouvelles des contributions de ses amis ou des gens qu'il connaît, et que ces
Oui.
contributions étaient des images, l'équivalent textuel qui remplaçait l'image était essentiellement le nom de la personne qui avait publié l'objet en question. Donc, évidemment, le principe d'une image vaut 1 000 mots dans ce cas-ci n'allait pas grand-chose parce qu'au lieu d'avoir le détail de l'image, on avait le nom de la personne qui l'avait publié, ce qui était très
C'est un peu
limité.
pauvre.
À partir de 2016, en fait, d'abord 2016, évidemment, Facebook travaillait sur le développement d'un algorithme qui pouvait reconnaître les images, comme plusieurs autres d'ailleurs. Mais en 2016, donc, Facebook a implémenté la fonctionnalité comme telle, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand une image est téléversée sur le fil de nouvelles de Facebook, l'image est automatiquement reconnue dans son ensemble par une série de composantes. Donc, par exemple, si je mets une image de moi et ma conjointe qui sommes en train de faire du kayak sur un lac un dimanche après-midi et que je ne prends pas la peine de décrire quoi que ce soit dans mon post,
Oui.
la description de l'image pourrait dire, par exemple, l'image peut contenir deux personnes sur un plan d'eau, un kayak, soleil. Donc, la description des différentes composantes, ce qui fait qu'au moins on est capable d'avoir un minimum d'idées de ce que l'image représente. Donc, ça a
D'accord.
ses limites, évidemment,
Oui.
mais c'est déjà une chose qui permet d'inclure beaucoup plus
Le monde.
clairement les personnes handicapées visuelles qu'à l'époque.
C'est vrai.
Et Facebook travaille là-dessus aussi sur différentes améliorations autour de ça, mais déjà, ça comble un fossé. Et du point de vue, justement, de l'évolution en termes de technologie, ce qu'on peut espérer, c'est que cette innovation-là chez Facebook et chez d'autres qui travaillent sur le même genre d'algorithmes pourrait faire en sorte que dans certains systèmes qui sont très, très populaires, certaines plateformes de publication de contenu, comme par exemple WordPress ou Drupal, qui sont des outils qui sont utilisés massivement pour créer des contenus web, on pourrait avoir à l'intérieur ces mêmes types d'algorithmes, ce qui ferait que tous les sites web de Monsieur, Madame, tout le monde pourraient naturellement avoir ce genre de description à l'intérieur dans les prochaines années, ce qui, encore là, ferait tomber des
Ce serait
barrières pour les
formidable.
personnes
Ouais.
handicapées visuelles.
C'est passionnant, Denis Boudreau. Va falloir qu'on vous réinvite. C'est tout le temps qu'on avait, malheureusement, mais merci infiniment de nous avoir fait part de ces innovations. Et puis, on va pouvoir mettre en ligne peut-être vos capsules. Alors,
Ben avec plaisir.
merci encore et puis bonne journée.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
Question de la semaine. Comment combattre la pauvreté chez les personnes en situation de handicap? La solution passe-t-elle par l'instauration d'un revenu de base?
Et bonjour, nous avons Franck Bouchard avec nous, notre cher chroniqueur chargé de projet pour le groupe CDH au bout du fil. Bonjour Franck.
Bonjour Anna.
Alors aujourd'hui, vous nous parlez de logement adapté avec service.
Oui, effectivement, j'avais envie d'aborder un peu ce sujet-là. Toutes les questions de l'accessibilité, de l'adaptation des logements, c'est bien évidemment un sujet qui préoccupe beaucoup de personnes en situation de handicap, d'avoir accès à un logement qui est adapté, adaptable, accessible. Bon, c'est souvent un critère qui fera que les personnes vont pouvoir habiter de manière autonome dans des logements.
Oui.
Et c'est souvent un peu difficile à trouver.
Oui.
Donc, c'est sûr et certain qu'ils se développent comme ça depuis quelques années des différents projets qui permettent d'offrir aux personnes comme ça des logements effectivement qui sont conçus pour répondre aux besoins, aux caractéristiques des personnes. On a vu apparaître dans les dernières années différents projets comme ça. Pensons par exemple à tout ce qui est développé par la Fondation des aveugles du côté logement. Vous en avez d'ailleurs parlé il y a quelques semaines d'un projet là, qui est en train d'émerger.
Oui, tout à fait.
De leur côté. Donc on voit que c'est ou alors par exemple la Maison des Sourds qui a été développée il y a quelques années sur Crémazie, on voit que ce sont des habitations développées pour répondre donc à des besoins de personnes qui ont un certain quand même degré d'autonomie pour habiter dans les logements, mais qui ont besoin d'aménagements peut-être particuliers. Donc c'est comme ça que ces projets-là émergent de plus en plus. On voit d'autres aussi, d'autres types de projets qui répondent à des besoins plus importants. Et c'est ça un peu plus que je voulais aborder aujourd'hui.
Oui.
Ce sont des projets vraiment plus où on va retrouver davantage de services pour les personnes. Donc, qui va répondre à des besoins où les personnes ont besoin de soutien plus important. Elles ne sont pas nécessairement en mesure d'être parfaitement autonomes dans leur logement. Donc, on va développer des projets. De plus en plus, on va apparaître donc ce genre de projet-là.
Et alors, quels services s'ajoutent finalement à ces logements adaptés?
Ben, c'est souvent des services qui vont être liés à des besoins, à répondre à des besoins de la vie quotidienne. Des gens qui ont des besoins importants, par exemple, en termes de soutien pour, bon, par rapport à la préparation des repas, l'habillement, des choses comme ça. Donc, on voit se développer de plus en plus des projets qui vont à la fois offrir des logements aux personnes, des logements autonomes. Là, on ne parle pas nécessairement de résidence, mais des logements autonomes, mais avec une offre de service 24 heures sur 24, 7 jours semaine, avec des préposés, par exemple, qui sont sur place. On a vu se développer un projet assez connu, je présume, les habitations Pignon sur rue, là, qui sont sur la rue Rachel, qui ont développé une approche intéressante, effectivement, de regrouper un peu les services pour une dizaine de locataires. Ils ont regroupé les services que chacun avait besoin, mais de manière à embaucher du personnel qui sont sur place, donc qui permettent de répondre aux besoins de tout un chacun de ces locataires-là, sans nécessairement qu'ils fassent eux-mêmes des démarches de manière individuelle pour aller chercher un service qui serait offert par le CLSC.
Oui.
Donc, c'est plutôt une approche plus globale, effectivement, mm-hmm. et de mise en commun un peu des besoins pour permettre de répondre à ce type de service-là. On voit aussi se développer, on en entend parler beaucoup dans les médias, de projets, disons, qui sont là peut-être plus proches de résidence, mais qui répondent à des besoins plus majeurs, plus importants en termes d'accessibilité. Par exemple, toutes les maisons de la Fondation Martin-Matt, par exemple,
oui.
qui se sont développées, on est maintenant rendu à 6 maisons, qui vont répondre à des besoins peut-être plus majeurs. Alors là, on parle d'aménagement plus important. On est plus proche de résidence, finalement, avec des services vraiment offerts avec sur place, un peu comme dans les résidences pour personnes âgées. L'idée, évidemment, de développer ça, c'est d'éviter justement à ces personnes-là de se ramasser dans des lieux comme
c'est
les CHSLD, donc où ils ne seront pas nécessairement, on parle de personnes qui peuvent être jeunes, 25, 30, 40 ans, qui ne sont pas nécessairement dans un milieu qui leur convient, évidemment. Donc, ce qu'on passe, c'est de développer ce genre de choses-là. On voit aussi la Fondation Louis Vérot qui développe des choses du côté de l'autisme, un peu des approches similaires.
Mm-hmm.
Donc,
la Fondation Maison Gilles Carle aussi?
Oui, effectivement.
Ou de répit,
donc, on voit se développer ces approches-là, disons, plus importantes, avec des services plus importants. Évidemment, ça signifie aussi aussi des défis plus importants. Donc, ça ne signifie pas seulement de construire un immeuble adapté, accessible, avec les aménagements nécessaires pour répondre aux besoins des personnes, mais aussi tout le volet service qui vient avec ça, donc qui est davantage fourni du côté du milieu de la santé. C'est un enjeu. Donc, ça signifie d'accrocher deux univers, celui de l'habitation, qui permet de financer la construction, l'aménagement de ces lieux-là, et tout l'univers de la santé, services sociaux, donc le ministère de la Santé et services sociaux, qui doit aussi être
collaborer
ouais. et fournir du financement à long terme, évidemment, donc permanent ou à long terme, pour permettre que les personnes qui habitent là reçoivent les services qui leur sont nécessaires. Donc, c'est des modèles qu'on va se développer, mais tout l'enjeu d'attacher ces deux univers-là étant même assez pas toujours facile, effectivement. Assez important, effectivement, mais pas toujours facile, parce que, les contextes d'organisation des services, décentralisation, intégrer ça dans les nouvelles affaires, dans les nouveaux lieux, ça signifie souvent, donc, que les CIUS, par exemple, décident de prendre des décisions en termes de financement, que le ministère de la Santé lui-même bouge un peu plus sur ces approches qu'ils font. Donc, c'est des projets qui se montrent, qui
réalisent, qui demandent
nouveau, effectivement, qui répondent à des besoins grandissants. On voit les parents qui vieillissent, ils s'inquiètent effectivement de ce qui va arriver à leurs enfants. Est-ce qu'une fois qu'ils vont être partis, d'où est-ce qu'ils vont se ramasser? Souvent, ils restent à la maison, mais c'est une inquiétude qui est très importante, majeure. Donc, ce souci de développer des lieux d'habitation plus conviviales, plus faites sur mesure pour les personnes, on voit, de mon côté du milieu de l'habitation, on voit que ça émerge de plus en plus.
Oui, et c'est une bonne chose. Je suis sûre que le gouvernement y voit aussi un avantage à créer ces maisons et à développer ces services directement sur place.
Ben absolument, effectivement. Premièrement, on sort les gens d'un contexte plus hospitalier. Si on parlait tantôt des CHSLD, en termes de coûts, évidemment, c'est plus important. Et en plus que c'est pas approprié pour les personnes, de toute manière. Mais c'est effectivement avantageux pour les personnes. Et c'est avantageux aussi pour les personnes elles-mêmes qui retrouvent des milieux de vie plus intéressants, plus stimulants, bien souvent. Mmh. Donc, c'est aussi un avantage pour les personnes elles-mêmes. En termes peut-être de
confort, de qualité de vie.
J'ai
une dernière question. Oui. En quelques secondes, Franck, est-ce que c'est plus cher d'aller vivre dans ces maisons adaptées avec services?
Pas nécessairement, dans le sens où on va viser souvent des personnes qui ont des faibles revenus. Et à ce moment-là, en termes de coût de logement, par exemple, ils pourront bénéficier de programmes de subvention au logement. Donc, c'est pas nécessairement plus coûteux pour les personnes. Du côté des services, l'aide va souvent, le financement va souvent venir du ministère de la Santé. Peut-être qu'il y a des petits coûts qui peuvent être même accrochés. Mais on vise des gens qui habituellement auraient généralement de faibles revenus.
Donc, c'est sûr
qu'on va essayer d'offrir des logements à des coûts abordables, avec tout le volet service. Souvent, les fondations qui sont là, effectivement, qui viennent appuyer, on parlait de Martin Matt tantôt, viennent un peu aussi compenser des besoins qui ne seraient pas couverts nécessairement entièrement par les programmes.
C'est super. Écoutez, on va se tenir informés. Merci beaucoup, Franck Bouchard, de nous avoir préparé cette chronique.
Ça m'a fait plaisir. Au revoir.
Bonne journée.
Ceux qui aiment n'ont jamais tout à fait tort. Allez le dire à Émilie, qui fracasse son cœur sur tous les murs et fait naufrage dans chaque putain de flaque d'eau. Quand il n'y a plus d'espoir, il y en a encore. Osez l'écrire à Émilie, qui crache sa torpeur et ses blessures avec la rage de ceux qui refusent les mots. Émilie, pétard mouillé par la pluie de janvier, quand les autres s'étreignent, elle aussi voudrait qu'on la retienne, ne serait-ce qu'une fois quand elle s'en va. Parfois faut toucher le fond pour s'enfoncer plus creux. Émilie perd à tous les jeux et menote en silence son impatience à ses poignets jamais embrassés. Émilie, pétard mouillé par la pluie de janvier, quand les autres s'étreignent, elle aussi voudrait qu'on la retienne, ne serait-ce qu'une fois. Quand elle s'en va, les colombes qui s'envolent au mariage des autres, la griffe sous les yeux échit dans ses cheveux, d'un peu blanchi par la tempête. Émilie, amoureuse has been avant que d'être.
Question de la semaine. Comment combattre la pauvreté chez les personnes en situation de handicap? La solution passe-t-elle par l'instauration d'un revenu de base?
Aujourd'hui, avec Jean Lambert, ex-président de la Chambre des notaires du Québec, on parle d'une question de droit, mais aussi d'une question polémique. D'un côté, il y a la procréation médicalement assistée, qui est un moyen de pallier aussi au handicap, et de l'autre, il y a la procréation avec une mère porteuse, qui suscite un débat beaucoup plus vif. Bonjour Jean Lambert.
Oui, bonjour.
Alors, qu'entend-on par procréation assistée?
Alors, on entend une fécondation qui est autre que par une relation sexuelle normale. Donc, il s'agit d'amener ce que le Code civil appelle des forces génétiques d'une personne. Le cas le plus fréquent, c'est le don de sperme. Donc, on prend du sperme pour féconder un ovule. Et ça peut être fait soit dans l'utérus par une projection du liquide spermatique ou encore in vitro. Les autres procréations assistées, c'est lorsque on prend les deux l'ovocyte et la gamète du mâle pour faire un embryon qui sera implanté dans le sein d'une personne, d'une femme, qui n'est pas nécessairement la donneuse d'ovules. Donc, l'ovocyte peut venir d'une autre. Elle ne fait que porter l'enfant. Donc, on y reviendra tantôt.
Oui. Et quelles sont les restrictions imposées à la procréation assistée au Canada? Est-ce qu'il y en a?
Il faut distinguer deux choses. Il y a le Québec et le Canada. Au niveau de la procréation médicalement assistée, je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes. En fait, le problème vient que le rapport de la commission Byrd qui a permis de rendre légal au niveau du code criminel la signature d'un contrat de mère porteuse, mais on a dit que la mère porteuse ne peut qu'être remboursée de ses dépenses et sans rémunération. Et pour fixer ce cadre-là, ça prenait un règlement qui n'est toujours pas accepté, qui n'a toujours pas eu lieu. Donc, on est dans un flou juridique. Les femmes qui le font, ben, c'est quoi quel remboursement?
Ouais.
L'autre élément, c'est depuis l'adoption de cette loi, on a criminalisé la vente du don de sperme.
Ah.
Alors, en fait, je dis don. C'est plus un don parce on constituait des banques en payant les donneurs.
Oui.
Alors maintenant, c'est interdit de faire.
On
peut rembourser le stationnement, on peut rembourser le ticket de métro si le donneur a dû se déplacer pour se rendre à la clinique, mais il n'y a pas de rémunération, de sorte que les banques de sperme sont taries et il faut importer le sperme d'ailleurs, généralement des États-Unis.
Ah oui? OK.
Et puis là, sur ce compte-là, il faut payer. C'est drôle,
là,
quand on paye à l'achat à l'étranger, mais pas ici. Donc, c'est le cadre. Maintenant, au Québec, le contrat de mère porteuse n'est pas possible, n'est pas reconnu dans le Code civil. Alors qu'au niveau des autres provinces canadiennes, le contrat est légal. Il n'est pas interdit.
D'accord. Donc, on peut aller dans une autre province?
Ben oui, il y a des gens qu'on connaît, là, certains artistes qui sont allés en Ontario. pour faire porter leur enfant, ce qu'ils ne pouvaient faire au Québec. Parce qu'évidemment, il faut comprendre une chose, un contrat entre trois personnes, à l'occasion d'eux, quand il n'y a seulement qu'un parent d'intention, mais généralement c'est un couple, ce qu'on appelle les parents d'intention, et une troisième personne qui est la mère porteuse. Alors, c'est un contrat assez curieux parce que ça porte sur la création d'un être humain.
C'est vrai.
Donc, c'est déjà assez particulier. Maintenant, le Canada a signé une convention il y a, je pense, une bonne quinzaine d'années sur la protection de l'enfant. Mm-hmm. Donc, c'est une convention internationale qui comprend, entre autres, des dispositions pour empêcher le trafic de bébés. On avait, en décembre, justement, au début, c'est-à-dire de cette année, le cas d'une Française qui, pendant sa gestation, a offert son bébé en vente sur Internet. C'est un couple du Québec qui s'est porté, semble-t-il, acquéreur. Donc, elle a pris l'avion, venue accoucher à Montréal. Elle leur a laissé le bébé et elle s'est retournée. Alors, malheureusement, ils font l'objet d'une enquête et de poursuite.
Oui.
Et c'est malheureux parce que s'ils avaient pu avoir accès à un contrat normalement, comme dans les autres provinces, l'important, c'est que le contrat ne porte pas sur un enfant qui est déjà créé. Parce que ça, c'est du trafic d'enfants.
C'est ça.
Donc, il faut faire le contrat avant la conception et il faut être capable de le prouver.
Puis, ça pourrait limiter donc ce trafic-là, effectivement.
Oui, mais c'est ça. Il faut contrôler le trafic des enfants, bien sûr.
D'accord. Bien, c'est très clair. Merci beaucoup, Jean Lambert, ex-président de la Chambre des notaires du Québec. Au plaisir.
Merci.
Chargé dès aujourd'hui. Vous écoutez Accès Libre.
Je pourrais m'évader.
Question de la semaine. Comment combattre la pauvreté chez les personnes en situation de handicap? La solution passe-t-elle par l'instauration d'un revenu de base?
Voici le temps venu de notre table ronde. Québec veut instaurer un revenu de base pour des personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi. Il s'agit du projet de loi numéro 173. De quoi s'agit-il exactement et qui peut y avoir accès? On fait le tour de la question avec Véronique Vézina, présidente du conseil d'administration de la COFAN. Elle est aussi directrice adjointe du regroupement des organismes de personnes handicapées de la région de Québec. Et Serge Petitclerc, porte-parole du collectif pour un Québec sans pauvreté. Bonjour Véronique, bonjour Serge.
Bonjour.
Bonjour.
Alors il y a quelques semaines, vos organismes ont déposé un mémoire à l'Assemblée nationale pour faire part de vos recommandations et ou inquiétudes au gouvernement concernant ce projet de loi. Je m'adresserai d'abord à Serge Petitclerc. Avant de nous donner le punch de votre mémoire, rappelez-nous le rôle du collectif, s'il vous plaît.
Oui, dans le fond, le collectif pour un Québec sans pauvreté, c'est un regroupement d'une trentaine d'organisations nationales et d'une dizaine de regroupements régionaux qui partagent une mission de lutte à la pauvreté, de lutte pour la justice sociale, pour plus d'égalité. Dans le fond, on existe pour rassembler toutes les organisations qui veulent faire en sorte que le Québec devienne une société sans pauvreté, comme notre nom l'indique. On travaille beaucoup aussi sur les questions d'inégalité et de préjugés envers les personnes en situation de pauvreté, bien, dans le fond, de lutte contre les préjugés envers les personnes.
Et alors, qu'est-ce que vous disiez en résumé dans ce mémoire que vous avez déposé au gouvernement?
Bien, nous, dans le fond, on voulait faire deux choses en participant à la commission parlementaire, en déposant un mémoire. On voulait, d'une part, saluer l'initiative gouvernementale, parce que depuis l'adoption de la loi visant à lutter contre la pauvreté en 2002, le gouvernement devait se donner une cible à atteindre en termes de lutte à la pauvreté. La cible qui a été déterminée, c'est ce qu'on appelle la mesure du palier de consommation, autour d'un revenu de 18 000 $ pour une personne qui vit seule.
Oui.
Et ce projet de loi-là concrétise cet objectif-là pour une partie de la population qui vit en situation de très grande pauvreté. Et c'est ça qu'on salue. Et la deuxième chose qu'on voulait faire, dans le fond, c'était de mettre de l'avant une série de recommandations pour améliorer le projet de loi. On pourra revenir plus tard dans l'entrevue, mais l'idée, c'était à la fois de saluer et à la fois d'amener certains éléments critiques.
D'accord. Parfait. Et Madame Vézina, vous, la COFAN, comment vous êtes un regroupement aussi? Comment vous y êtes pris pour rédiger ce mémoire, votre mémoire à vous?
Nous, de notre côté, l'élément principal de notre mémoire était de souligner l'importance d'adopter rapidement ce projet de loi-là, parce que ça fait quand même 40 ans là, qu'on nous promet différentes avenues pour s'assurer d'améliorer la situation financière des personnes qui ont des limitations.
Oui.
Donc, la création du programme Revenu de base, pour nous, était une avancée importante. Par contre, on a émis différentes recommandations pour bonifier ce qui était sur la table. Puis on est parfaitement conscient, puis on l'indique dans notre mémoire, qu'il y a énormément d'autres actions qui vont devoir être posées pour améliorer la situation de l'ensemble des personnes qui ont des limitations, mais aussi de l'ensemble des personnes qui sont en situation de pauvreté.
D'accord. Donc, un bon premier pas, mais encore plusieurs éléments, plusieurs choses à accomplir. Monsieur Petitclerc, merci. Dans quel contexte le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale a-t-il déposé ce projet de loi, plus largement?
Bien, je dirais que c'était déposé, évidemment, dans le contexte du dépôt, ou plutôt de la présentation du troisième plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Et en fait, le revenu de base, c'est comme la pièce maîtresse de sa proposition de politique pour les cinq premières années. Et la mise en place du revenu de base est évidemment, à la fois quelque chose de très grand, parce que ça fait une avancée évidente, on a déjà parlé. Mais là où on a eu certaines déceptions, je ne vous le cacherai pas, c'est nous, quand c'était déposé, on s'attendait à des mesures beaucoup plus larges sur la lutte à la pauvreté en général. Et dans le fond, on a mis tous les œufs dans le même panier. Un panier important, je le reconnais, mais il y a toutes sortes d'autres questions qui n'ont pas été abordées. Parce que nous, au collectif, évidemment, quand on parle de lutte à la pauvreté, c'est oui, les personnes qui ont une contrainte sévère à l'emploi, à l'aide sociale, mais c'est aussi les autres personnes à cité sociale. C'est des personnes âgées, c'est des étudiants, des étudiantes, c'est des travailleurs au salaire minimum ou des travailleurs, des travailleuses à temps partiel, Il y a tout un inventaire beaucoup plus large pour faire une lutte globale à la pauvreté. Fait que c'est pour ça que d'un côté, on était très content de l'annonce, mais d'un autre côté, on était déçu pour le reste.
Mm-hmm.
Donc, c'est le contexte général dans lequel on s'est retrouvé. Mais je suis d'accord avec la COFAN pour l'importance d'adopter ce projet de loi-là avant la fin de la session parlementaire et surtout ensuite pour la mise en place du règlement qui va faire en sorte que la loi va se réaliser réellement dans un programme qui va exister à un moment donné. Et si on comprend bien entre les lignes, on s'en va vers une réalisation de ce programme-là à quelque part à l'hiver 2019.
D'accord. Et pour revenir à ce revenu de base, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un revenu de base?
Bien, je voudrais présenter ce qu'est un revenu de base en général. On pourra en parler pendant des heures. Mais pour ce qui est de la proposition, non, parce
oui.
qu'il y a des versions philosophiques de ce qu'est un revenu de base, une allocation universelle qui est inconditionnelle, qui est universelle, qui est remis de la...
Ne
de
nous
la
mélangez pas, s'il vous plaît.
Non, mais je tiens à le dire parce qu'une des choses qu'on pourrait dire, c'est que dans la version plus philosophique, l'idéal de ce qui pourrait être un revenu de base, ça n'en est pas un. Ce que c'est, par contre, c'est pour les personnes qui sont déjà à l'aide sociale, à qui on a déjà reconnu une contrainte sévère à l'emploi, que ce soit pour handicap, pour handicap mental, que ce soit pour un problème de santé mentale. Ce qu'on dit, c'est qu'à partir du moment où ça va faire court, ça va faire 6 ans, qu'on vous a reconnu une contrainte sévère à l'emploi, eh bien, vous allez avoir droit à ce qu'on appelle le revenu de base, qui est, dans le fond, un nouveau programme à l'intérieur de la loi sur l'aide aux personnes et aux familles. Et à partir de ce moment-là, les gens à qui on reconnaît une contrainte sévère de très longue durée ou de longue durée, ben, ces gens-là vont se retrouver avec un revenu équivalent au minimum reconnu pour vivre en santé. C'est ce qu'on appelle la mesure du panier de consommation.
Mm-hmm. Qui est donc, de 18 000 $ par année.
Pour une personne qui vit seule, et évidemment, pour un couple, deux adultes, c'est plus élevé, avec toutes sortes d'autres particularités plutôt intéressantes en termes de des actifs que la personne peut posséder. C'est l'équivalent d'un demi-million de dollars. On peut penser à des héritages ou une maison.
Ouais.
Des personnes, ça va être un chèque qui va être remis par individu et non pas pour le couple, qui est déjà une grosse amélioration par rapport à l'aide sociale. Il y a toutes sortes d'éléments. La possibilité de conserver un revenu de travail sans aucune pénalité, aucune coupe sur le chèque, ça va être ajouté à ton revenu, puis tu vas payer de l'impôt dessus. Donc, mm-hmm. il y a beaucoup de choses intéressantes avec le revenu de base.
Donc, la personne pourrait travailler de temps en temps, c'est ça? Ou...
Ben, en fait, avec le revenu de base, la personne va pouvoir faire des gains d'emploi. On pourrait dire quasi limité, mais il faut s'entendre que la probabilité que la personne ait des gains d'emploi importants après avoir été 6 ans sur une contrainte sévère à l'emploi sont quand même minimum.
Oui.
Mais ces gains d'emploi-là ne seront pas déduits du revenu de base qui va être versé mensuellement. Ça va être, dans le fond, lorsque les gens vont faire leur rapport d'impôt, ils vont ajouter leur revenu de travail à leur revenu de base et ils vont payer de l'impôt sur les gains totaux.
C'est formidable.
Et bien la personne va être considérée comme un individu, donc le revenu du conjoint ou de la conjointe ne sera pas compté. Ça aussi, c'est une avancée assez importante.
Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. On le réclamait depuis longtemps.
Une avancée qui est importante. Par contre, il faut ça va être important pour une personne dont l'autre conjoint va aussi avoir une contrainte sévère à l'emploi ou pour une personne qui a un conjoint une fois qu'elle va avoir eu le revenu de base.
Oui.
Parce qu'il faut savoir que si notre conjoint ou notre conjointe un revenu qui est supérieur à, je crois que c'est 18 000 $ la personne ne peut pas avoir accès à l'aide sociale. Donc, elle ne peut pas avoir de conjoint avant d'avoir eu accès au revenu de base,
oui.
Sinon, il n'y aura jamais accès.
Ah, d'accord. Ça, c'est
ça fait partie
stratégique.
Des recommandations oui. qu'on a faites de façon plus générale, dans le fond, pour que les gens qui ont un conjoint ou une conjointe qui a des revenus qu'on ne tienne pas compte de ces revenus-là pour leur donner accès à aucun des programmes d'aide sociale.
Ben oui. Surtout que si cette personne est seule d'abord, puis ensuite en couple, elle garderait son revenu de base.
Oui.
D'accord.
C'est ça.
Bon, OK. Et qui, en fait, là actuellement, qui sont les personnes qui peuvent se prévaloir de ce revenu de base?
Ben actuellement, lorsque le programme sera en vigueur, nous, ce qu'on nous a dit, c'est que avant que les gens aient officiellement accès au programme de revenu de base, ça n'ira pas avant janvier 2019. Donc, les gens qui ont déjà fait leurs 6 ans
Oui.
Sur le programme de solidarité sociale, vont avoir accès aux revenus de base à partir de janvier 2019. Par contre, il faut savoir que à partir de janvier 2019, ce ne sera pas la totalité. Donc, les gens n'auront pas accès à un revenu qui est équivalent à la mesure du panier à la consommation. Le montant qui va être alloué à ces personnes-là va monter de façon graduelle de 2019 à 2023.
D'accord. Donc, c'est quand même encore dans longtemps, tout ça, 2023.
C'est
pour
encore
avoir...
dans longtemps.
Ouais.
Il faut savoir que le 18 000 $ qui est annoncé pour 2023 se base sur la mesure du panier à la consommation de 2017. La mesure du panier à la consommation va sûrement augmenter.
En plus.
On arrive en 2023.
C'est vrai.
En effet.
Écoutez, on va faire une pause musicale et puis on va voir comment cette loi pourrait être appliquée et comment elle pourrait s'appliquer à plus de monde.
Pour un instant, j'ai oublié mon nom. Ça m'a permis enfin d'écrire cette chanson.
Question de la semaine. Comment combattre la pauvreté chez les personnes en situation de handicap? La solution passe-t-elle par l'instauration d'un revenu de base?
Nous sommes en direct pour la table ronde d'Accès libre avec Véronique Vézina, présidente du conseil d'administration de la COFAN, et Serge Petitclerc, porte-parole du collectif pour un Québec sans pauvreté, pour parler du revenu de base, donc ce projet de loi numéro 173. Donc tout à l'heure, on a vu en fait... que ça allait être étalé sur plusieurs années jusqu'en 2023 pour vraiment toucher la totalité du revenu de base qui équivaut à 18 000 $ pour une personne seule, soit la mesure du panier de consommation. Maintenant, je voudrais savoir combien de personnes peuvent concrètement appliquer sur ce nouveau programme. Monsieur Petitclerc, peut-être? Est-ce que vous avez des chiffres?
Oui, ben, en fait, ce qui était indiqué dans la documentation gouvernementale, c'était qu'autour de 84 000 personnes, parmi les 130 quelques mille personnes qui sont en contrainte sévère à l'emploi, se retrouveraient avec un revenu de base à terme en 2023. Évidemment, ce sont des projections,
oui.
Mais on pourrait considérer que c'est des chiffres qui se tiennent quand même. Donc, il faut comprendre en fait que comme il faut avoir une période de 6 ans avant d'y avoir droit, c'est évident que ça prend quelques années avant de pouvoir bénéficier du revenu de base. Donc, c'est des chiffres qui se tiennent.
D'accord. Et ça, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, sur le délai de 6 ans?
Bien, moi, personnellement, notre organisation a plutôt tendance à dire qu'à partir du moment où on reconnaît une contrainte sévère à l'emploi, il faudrait être logique et cohérent et faire en sorte que les personnes aient droit au montant requis, c'est-à-dire le fameux 18 000 $ parce que si je peux comprendre qu'effectivement, il y a des gens qui reçoivent une contrainte sévère à l'emploi et qui peuvent retourner sur le marché du travail, il n'en demeure pas moins que la notion même de contrainte sévère à l'emploi, oui. C'est de reconnaître une incapacité permanente ou indéterminée à occuper un emploi et à subvenir à ses besoins. Donc, en toute logique, moi, dès le moment zéro, une personne devrait avoir accès à sa contrainte sévère et donc au revenu de base.
Oui, tout à fait.
Et par ailleurs, je tiens à le dire, c'est que c'est difficile d'avoir accès à une contrainte sévère à l'emploi.
Oui, c'est ça. Comment on fait pour reconnaître une contrainte sévère? Madame Vézina?
C'est ma collègue.
Oui.
En fait, M. Petitclerc a raison. Ça peut être difficile d'avoir accès à une contrainte sévère, tout dépendant de la limitation ou de la maladie que la personne peut avoir selon le cas. Il y a des diagnostics où c'est très facile d'avoir accès après avoir fait remplir un rapport médical. Les gens y ont accès presque très automatiquement. Par contre, pour d'autres, je pense notamment à des gens qui ont une déficience intellectuelle légère, un trouble du spectre de l'autisme, un problème de santé mentale ou des fois des maladies comme une maladie... la fibromyalgie, par exemple, où c'est beaucoup en fonction de la douleur de la personne. Pour ces personnes-là, ben c'est moins évident d'avoir accès automatiquement à la contrainte sévère à l'emploi. Des fois, ils n'y ont pas accès du tout. Des fois, il faut qu'elles fassent des demandes de révision et puis ça peut prendre du temps. C'est très variable, je dirais, en fonction de la problématique que la personne peut avoir.
D'accord. Et est-ce que ces revenus de base, Madame Vézina, comprennent les compensations équitables, donc de l'argent que pourraient toucher en plus les personnes en situation de handicap pour leurs besoins spécifiques?
Pas du tout. Nous, ce qu'on considère qui va être versé pour les gens qui vont avoir accès aux revenus de base, c'est ce qui vient combler les besoins de base, se loger, se nourrir, se vêtir. Pour nous, les coûts supplémentaires liés aux limitations sont un dossier indépendant, puis le revenu de base ne vient pas prendre compte de ces besoins supplémentaires-là.
Donc là, vous réclamez des compensations équitables, c'est ça?
Oui.
Toujours.
Nous, en fait, même si les gens vont avoir accès aux revenus de base, toute la question des coûts supplémentaires est un dossier qu'on va travailler à part parce qu'il y a des surcoûts qui sont liés à différentes limitations ou à différentes problématiques. Puis ces coûts-là, il va falloir aussi un jour les reconnaître. Il y a des travaux qui sont en cours là-dessus, puis il va falloir augmenter le revenu des personnes pour tenir compte de ces contraintes-là.
D'accord, bien sûr. Et M. Petitclerc, je me demandais combien ces personnes touchent actuellement, ces 84 000 personnes qui sont comprises dans le programme?
Ces gens-là reçoivent le même montant que les gens qui ont une contrainte sévère à l'emploi de plus courte durée. Là. Les gens se retrouvent avec un revenu équivalent à peu près aux 3/4 de ce qui est reconnu comme le minimum vital, le 18 000 $ Donc, c'est autour de 12 000 $ Évidemment, il y a des situations particulières qui peuvent amener plus de revenus ou moins de revenus aux personnes. Est-ce que les gens ont aussi accès à un petit revenu de travail ou pas? Mais c'est dans ces eaux-là. Là. Donc, les gens, même à qui on reconnaît une contrainte sévère à l'emploi, les gens ont un montant inférieur au minimum requis. Et on s'entend, ce minimum-là, là, c'est pas pour sortir de la pauvreté. C'est pour couvrir ses besoins de base. Parce qu'on pourrait avoir une autre discussion sur c'est quoi la sortie de la pauvreté.
Oui.
Et dans notre analyse, là, pas plus tard que la semaine dernière, on a l'Institut de recherche et d'information socio-économique qui a présenté la notion de revenu viable, où on peut voir que pour être sorti de la pauvreté, il faut avoir la possibilité d'avoir un coussin Il faut avoir la possibilité de partir en vacances l'été pendant une semaine avec les enfants. Il y a d'autres critères que la simple survie et la simple satisfaction de ses besoins de base, qui sont de se loger, de se nourrir et de se vêtir. Et quand je dis ça, je ne dis pas que ce n'est pas une avancée, ce n'est pas ça le point, mais le 18 000 $ c'est le minimum pour vivre s'il n'y a pas d'autres coûts. Et effectivement, quand une personne a des problèmes de santé, que ce soit un handicap, les personnes peuvent avoir des besoins supplémentaires, puis ça aussi, il faut que ce soit reconnu.
Mm-hmm, bien sûr.
Mais monter la barre à 18 000, je dirais que c'est un gros morceau, au moins pour ces personnes-là.
Et selon vous, il faudrait l'étendre à combien de personnes, en fait? Qui est-ce qui devrait être compris dans ce revenu de base?
Je vous dirais, je ne sais pas si c'est par un revenu de base, mais nous, ce que le collectif a toujours mis de l'avant, c'est qu'à partir du moment où le milieu de la science, le mouvement social, le gouvernement s'entend sur un indicateur, dans ce cas-ci, la mesure du panier de consommation, ce minimum-là, c'est une cible à atteindre pour tout le monde.
C'est-à-dire?
Et ensuite, aussi, il y a autour de 800 000 personnes au Québec qui n'ont pas ce minimum requis, selon les statistiques les plus récentes qui datent de 2014, si je me trompe.
D'accord.
Alors, on parle d'autour de 760, 800 000, selon les années, ça change un peu, mais c'est autour d'une personne sur 10 au Québec qui n'ont pas le minimum. De ce nombre de personnes, la moitié, ce sont des gens qui sont à l'aide sociale, incluant les gens qui ont une contrainte sévère, mais le reste, l'autre 400 000, ce sont des étudiants, des étudiantes. Ce sont des gens qui sont sur la riche des rentes pour invalidité. Ce sont des gens qui peuvent être au chômage. Ça peut être des travailleurs, des travailleuses au salaire minimum, mais qui ne travaillent pas à temps plein, ou des gens qui ont un meilleur salaire, mais qui travaillent à temps très partiel. Donc, il y a toute une diversité de situations auxquelles on doit répondre. Et tout ne peut pas être réglé avec un seul projet de loi. Mais quand même, moi, je vois ça un peu comme le droit de vote, l'atteinte du droit de vote au travers des décennies, autant au Canada qu'ailleurs dans le monde. Je veux dire, au début, le droit de vote, on le réclamait pour tout le monde, mais on était capable de le gagner par morceaux. D'abord pour les gens qui étaient propriétaires, ensuite pour l'ensemble des hommes, ensuite on a inclué les femmes, ensuite les Autochtones au Canada, mm-hmm. les prisonniers. Donc, à force de bataille, on était capable d'avoir un suffrage universel pas mal,
et là,
je dirais pas complètement total, mais là, avec le revenu de base, c'est comme un gros jalon qu'on marque, puis ensuite on peut étendre, je pense, pour d'autres parties de la population.
D'accord, et justement...
On
est bientôt en élection, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour militer en la faveur d'un élargissement ou de plus d'argent?
Moi, je pense qu'il faut agir avant l'élection pour faire en sorte que le projet de loi soit adopté et que le règlement soit étiqueté par le gouvernement pour que peu importe qui va se retrouver au règne du pouvoir le 1er octobre, que le revenu de base existe, qu'il soit mis en vigueur, mettons, à partir de 2019. Nous, on voudrait que ce soit plus rapidement. Mais il en demeure pas moins que ce serait un premier grand pas. Donc, c'est la première chose à faire. Et ensuite, c'est sûr que nous, comme organisation, on va mettre de l'avant d'autres sortes de revendications pour améliorer le revenu des personnes en général. Deux exemples très courts. Évidemment, il y a toute la question du salaire minimum pour qu'une personne qui travaille à temps plein sorte de la pauvreté. Et il y a des choses simples qui pourraient être faites par le gouvernement sur lesquelles toutes les parties à l'Assemblée nationale sont d'accord, comme par exemple la fin du détournement des pensions alimentaires pour les gens qui sont à l'aide sociale ou à l'aide financière aux études. C'est des choses qui pourraient être faites assez simplement.
D'accord. Ben écoutez, merci beaucoup. Madame Vézina, un dernier mot?
Oui. Moi, je vous dirais que nous, on a déjà interpellé les différents partis politiques pour d'abord s'assurer qu'ils vont maintenir le programme de revenus de base s'ils prennent le pouvoir, mais aussi pour les interpeller sur les autres mesures qu'ils vont mettre en place pour améliorer, je dirais, les conditions financières de l'ensemble des personnes qui ont des limitations.
D'accord. Ben merci pour ce travail. Madame Véronique Vézina, présidente du conseil d'administration de la COFAN. Monsieur Serge Petitclerc, porte-parole du collectif pour un Québec sans pauvreté. On va suivre tout ça et l'application, l'adoption de ce projet de loi. Donc, merci beaucoup à vous deux et puis à une prochaine fois.
Merci.
Au revoir.
Merci à vous.
Au revoir.
Écoutez Accès libre. Biographie, toute ta vie dans un nous 560.
Question de la semaine. Comment combattre la pauvreté chez les personnes en situation de handicap? La solution passe-t-elle par l'instauration d'un revenu de base?
C'est maintenant le moment de vous présenter un essai disponible en version audio grâce à Vues et Voix. Si vous présentez une déficience visuelle ou une limitation qui vous empêche de lire un livre papier, vous pouvez profiter de ces versions adaptées en vous inscrivant au service du livre adapté de BANQ. Je vous invite maintenant à écouter la quatrième de couverture du récit personnel « Heureux les pauvres » écrit par Nicole Croteau et publié en 2015 aux éditions Mediapol.
Toute dépossession peut marquer le début d'une reconquête de soi. Voici un livre essentiel pour comprendre ce qu'est la pauvreté matérielle au 21e siècle, pour découvrir un miroir des pauvretés existentielles qui sont le lot de tout être humain, et pour déceler, enfoui au cœur même du dénuement, les occasions de s'en relever. Après 15 ans de vie professionnelle, Nicole Croteau se voit projetée dans la spirale de l'appauvrissement. La lutte qu'elle devra y mener pour sa dignité se révélera peu à peu, avec le soutien de son entourage, une étape de guérison intérieure. Son témoignage d'une grande finesse s'adresse à ceux que la vie éprouve matériellement, à leurs proches désireux d'aider sans blesser, mais aussi à toute personne en ses pauvretés secrètes. Critique avisée d'un système social qui accable les démunis, c'est surtout une inspirante affirmation de résilience. Nicole Croteau a été orthothérapeute jusqu'à ce que des problèmes de santé l'éloigne du marché du travail durant plusieurs années. Elle est engagée dans les milieux de la solidarité sociale. Elle révèle ici un véritable talent d'écrivain.
Entendez maintenant un extrait de l'introduction du livre.
Adolescente, je clamais que je serais médecin, mais j'ai rapidement réalisé que, dans un milieu en survie, les rêves, s'ils nous aident à résister à l'âpreté du quotidien, ne peuvent en contrepartie être portés jusqu'à leur accomplissement. J'ai alors tôt fait de réduire mon ambition à celle de devenir infirmière. La maladie de mon père, survenue lors de mes 17 ans, m'a cependant contrainte à abandonner mes études. J'ai dû prendre un emploi de vendeuse dans un commerce où l'on aurait pu tout aussi bien m'affecter au travail de waitress. Ce renoncement auquel ma famille est restée insensible ne sera que le premier obstacle du parcours professionnel sur lequel j'ai persisté à vouloir m'engager. À travers les aléas et les multiples détours inhérents à toute existence humaine, et après avoir obliqué vers une médecine moins conventionnelle, il m'aura fallu près de 25 ans pour atteindre l'objectif qui, dès ma sortie de l'enfance, donnait sens à ma vie. En tant qu'orthothérapeute, je suis enfin devenue la soignante que j'avais toujours rêvé d'être. J'ai prolongé mes études jusqu'à ce que ma maîtrise de plusieurs approches en massothérapie me permette de former et d'évaluer d'autres thérapeutes. C'est donc avec soulagement qu'au terme d'efforts soutenus, j'ai commencé à goûter les fruits d'une reconnaissance professionnelle chèrement acquise. Si l'ascension a été longue et laborieuse, le contentement fut toutefois de courte durée. À peine mon but atteint, et parallèlement à d'imprévisibles ruptures de contrat, la maladie a frappé. En décembre 1991, pour éviter la récidive d'hémorragie grave, j'ai subi une hystéro-ovariectomie. À ma sortie de l'hôpital, l'insuffisance de revenus ne me permettant pas de me nourrir convenablement, il n'aura fallu que peu de temps pour que la fatigue s'installe, plus forte que ma volonté de reprendre ma clientèle après la convalescence prescrite. C'est ainsi que, sans avoir eu le temps de me prémunir contre les imprévus, je me suis retrouvé en situation de totale dépendance financière. Le passage de personne ressource à personne sans ressources a provoqué l'effritement de tous les repères sur lesquels j'avais construit mon identité. Cette déstabilisation, s'ajoutant à l'urgence de gérer les impératifs inhérents à la pauvreté, m'a projeté dans une réalité où mon intégrité n'était plus assurée. Affaibli, sans soutien familial ni moyens matériels, j'ai été dans l'incapacité de m'accorder le repos nécessaire à mon rétablissement. Il m'était impossible, dans ces conditions, d'envisager un retour au travail à brève échéance. En fait, ce qui aurait dû être une pause salutaire marqua le début d'une insidieuse descente vers un dénuement qui m'amena au seuil de l'indigence.
Il y a tant de choses qui m'échappent. Tant de toi que je ne connais pas. Fais-moi une place sous ton écharpe. Je t'en prie, raconte-moi. T'es toujours la jeune fille qui s'amuse avec le temps. Ne s'éteins pas l'enfance qui brille dans les yeux d'une grand-maman. Tu berces encore les enfants, tu les berces même s'ils ont du grain. Tu fais d'une larme un printemps, t'es là, le sourire béat. C'est beau, oh, 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 comme la vie te va. Sages disent dans les livres que le cœur ne vieillit pas. Tu dis si la peau pouvait suivre, tu te ramènerais un beau gars. T'es toujours la femme qui profite à fond du temps. Malgré ce qui file entre les doigts,
que l'on voudrait tenir encore. Et la réponse que tu me donnes n'a rien à voir avec le temps. C'est un air qui se fredonne dans mon cœur, grand-maman. Tu perces encore les enfants, tu les berces même s'ils sont rendus grands. Tu fais d'une larme un printemps. T'es là, le sourire béat. C'est beau, comme la vie te va. Oh, comme la vie te va. Oh, comme la vie te va.
Question de la semaine. Comment combattre la pauvreté chez les personnes en situation de handicap? La solution passe-t-elle par l'instauration d'un revenu de base?
Et quoi de mieux pour conclure cette émission que de se faire raconter le début du défi sportif par quelqu'un qui n'y avait jamais assisté avant? J'ai nommé Camille Chai. Bonjour Camille.
Bonjour.
Alors vous êtes membre de l'équipe canadienne d'escrime en fauteuil roulant et conférencière. Vous apparaissez pour notre grand plaisir aussi à Mi-Télé. Oui. Camille, vous avez 28 ans, vous êtes devenue en 2 ans une athlète d'élite. je le rappelle pour nos auditeurs, vous êtes née sans bras ni jambe gauche.
Tout à fait.
Alors vous avez assisté pour la première fois à l'inauguration du défi. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous a plu ou émerveillé?
En fait, c'était un très beau moment, très touchant. Très touchant parce qu'on voit en fait tous les élèves, tous les jeunes de toutes les écoles qui arrivent et qui rentrent pour donner la main à tout le monde. Donc, c'est un très, très beau moment qui donne une belle idée de ce qui va se passer ici pendant une semaine. Donc, voilà, très inspirant comme moment.
Et ils donnent la main à qui, en fait, tous ces jeunes?
En fait, c'est les jeunes qui rencontrent les bénévoles. Donc, ils font comme une forme, une grande allée. Et les jeunes passent au milieu de l'allée et tapent dans les mains de tout le monde pour en fait, le lancement, l'ouverture du défi sportif. Donc, c'est un moment qui est riche en cris, en encouragement et en émotion.
Et tous ces jeunes vont participer?
Oui, exactement.
D'accord. Donc, il y a des gens de tous âges?
Oui. Mais c'est surtout des jeunes, donc dans des écoles primaires et peut-être un petit peu secondaires aussi, mais c'est des jeunes.
Super. Et maintenant, vous avez dû quitter donc le lieu du complexe Claude Robillard pour vous rendre à votre camp d'entraînement, n'est-ce pas?
Oui, exact.
Comment ça se passe alors, ce camp? Comment vous sens maintenant?
Très bien aussi. C'est un camp qui a lieu sur 3 jours. Donc justement, dans le but de se préparer pour notre Coupe du Monde qui va avoir lieu de vendredi à dimanche. Donc on est toute l'équipe ensemble et on s'entraîne très, très fort.
Et quelle sera ta participation au défi sportif?
Alors ce sera, oui, effectivement, en tant qu'athlète, mais aussi en tant qu'athlète, donc ambassadrice de l'événement. Parce que c'est un rôle qui me tient à cœur, tout simplement parce que je trouve que en fait, pour moi, c'est important que tous les jeunes qui ont un handicap voient leur handicap comme leur force et non comme une faiblesse. De toute façon, c'est ce qu'ils font déjà en venant sur place parce qu'ils se dépassent et ils donnent tout ce qu'ils ont. Mais donc, c'est un petit peu le message que je veux véhiculer aussi aux plus jeunes, qu'ils soient fiers d'être qui ils sont puis qu'ils marchent la tête haute.
De quelle façon vous allez le faire?
En fait, c'est en parlant avec eux, en les regardant, en leur souriant. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent vers moi juste parce qu'ils sont curieux aussi de voir ma prothèse de jambe. Donc, c'est vraiment par ma présence et par les encouragements.
D'accord. Et votre participation plus sportive, en fait, qu'elle va être, elle?
Alors, donc, ça va être une Coupe du Monde. Donc, ça va être des athlètes de plus d'une quinzaine de pays qui vont venir ici à Montréal pour participer à la Coupe du Monde. Donc, moi, mon but, ça va être évidemment de me battre du mieux que je peux pour augmenter mon classement mondial. Parce que mon but, évidemment, c'est de me rendre au prochain jeu, donc à Tokyo en 2020.
D'accord. Et savez-vous déjà quel adversaire vous allez affronter en premier?
Non, pas exactement. Il y a plusieurs pays qui ne seront pas là, contrairement aux autres compétitions. Mais c'est un petit peu une surprise. Je vais découvrir ça le matin même lors de mes premiers combats.
D'accord. Et ça va être donc le 27, hein? C'est ça, le 27
avril?
À quelle heure vous allez faire votre match?
Alors, je n'ai pas les heures précises, mais ça devrait être en début d'après-midi, le 27.
D'accord. Et combien de temps ça dure?
Ça dure 3 jours, donc tout le week-end.
OK, super.
Jusqu'à dimanche.
Et votre objectif, alors, par rapport à ces compétitions?
Par rapport à cette compétition, ouais. Ça va être de faire mieux que mes compétitions précédentes, donc d'avoir plus de victoires au niveau de mes combats. Surtout, ben voilà, c'est de me dépasser, mais aussi très important d'avoir du plaisir à chaque combat.
Et est-ce qu'il y a une équipe que vous craignez le plus ou qui est un peu la personne à battre absolument?
Oui. Ben en fait, les Russes et les Chinois sont très très forts. Mais on peut toujours être surpris, donc je prends aucun adversaire pour acquis, ça c'est sûr.
Ouais.
Voilà, donc c'est... Ouais, je pense que j'ai plein de beaux défis qui m'attendent, mais je suis prête pour les affronter.
Ben, c'est formidable, on vous souhaite le meilleur des chances. Puis
merci.
Je sais également que vous êtes jumelée avec un jeune de la relève, alors oui. Racontez-nous cette aventure.
Ben en fait, j'ai été jumelée donc avec un jeune de la relève qui s'appelle Sheldon. On a eu la chance de faire ensemble les shootings photos et vidéos. Alors c'est là la première fois qu'on s'est connus. Et ben c'est un petit peu comme je disais tout à l'heure. Donc c'est d'être là pour lui aussi, de s'encourager parce que c'est quand même précieux qu'on puisse se côtoyer dans un événement aussi énorme et aussi fort humainement. Donc voilà, c'est ma présence auprès de lui qui est importante pour moi.
Oui, vous allez vous revoir après ces séances de photos?
Ben oui. Là, en fait, je l'ai déjà vu ce matin, donc à la cérémonie d'ouverture. On va se croiser tout au long de la semaine. Donc voilà, c'est un petit peu comme mon petit frère.
Oui, qu'est-ce qu'il fait, lui, comme sport?
Il fait le hockey.
D'accord. Et vous pensez... qui va vous solliciter pour quel genre de... Qu'est-ce que vous allez pouvoir lui offrir, selon vous?
Ben, ça va être vraiment ma présence et mes encouragements. C'est une belle amitié, en fait.
Ouais. Vous pensez que vous pouvez servir de modèle aussi pour ces jeunes?
Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est sûr que c'est mon but, un peu comme si j'étais sa grande sœur. Hein. Donc oui, mon but, c'est d'être son modèle dans le dépassement de soi, mais je pense qu'il sait déjà très bien comment le faire lui-même.
Ouais. Et vous, d'ailleurs, est-ce que plus jeune, vous avez eu des modèles pour arriver où vous en êtes?
En fait, ben, quand j'étais jeune, j'étais pas dans le sport élite, donc c'était plus du sport pour le loisir.
Ouais.
Mais par contre, oui, j'ai quand même toujours eu des modèles autour de moi qui m'ont toujours encouragée ou inspirée aussi à foncer, que ce soit des personnes de ma famille, des amis ou des personnes connues dans le monde du sport.
Est-ce qu'il y avait déjà des personnes en situation de handicap qui vous inspiraient?
En fait, ben, honnêtement, à cette époque-là, non, je connaissais pas tant d'athlètes handicapés. Donc, c'est plus ma découverte du monde du sport paralympique est toute récente.
D'accord. Et, et donc, comment vous allez... qu'est-ce qu'il vous faut pour que vous participiez aux Jeux de Tokyo?
Je m'excuse, j'ai mal compris la question.
Qu'est-ce qu'il vous faut maintenant pour participer aux Jeux de Tokyo en termes de résultats où on va pouvoir...
Oui, ben, les résultats, c'est une chose, ça c'est sûr. Donc, c'est d'être classé dans les 16 premiers mondiaux.
D'accord.
Ce que j'ai réussi à faire l'année dernière. Donc, il faut que je maintienne ma position. Donc, ça va être à travers des prochaines Coupes du Monde. Donc, c'est à peu près 5 par année jusqu'en 2020. Donc, à partir de ce moment-là, il va falloir que je puisse me qualifier, évidemment, pour Tokyo. Et ben, y a aussi une autre réalité qui est l'argent. Donc, c'est d'avoir les moyens. Il faut que je trouve des commanditaires pour pouvoir tenir la route, si je peux dire ça comme ça, pour me rendre jusqu'à Tokyo.
D'accord. Ben, n'hésitez pas à nous faire savoir tout ça. On pourra le diffuser et en informer nos auditeurs. Merci beaucoup, Camille Chai, d'avoir pris quelques minutes pour nous parler. Je rappelle, vous êtes membre de l'équipe canadienne d'escrime en fauteuil roulant et vous allez participer à cette Coupe du Monde chez vous à partir du 27 avril jusqu'au 29 dans le cadre du défi sportif.
Tout à fait. Ben, merci à vous.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Attaché au poids du balancier, je planais sans me soucier de ma trajectoire. Le hic Le regard ivre de mensonge, il me fallait pour survivre sur la longe. Le fil d'Ariane qui m'enfonçait dans l'éponge, dans les décombres de vos détails. Et j'étais Roxane, j'étais Roxane. Le regard ivre de mensonge, il me fallait pour survivre sur la longe. Le fil d'Ariane qui m'enfonçait dans l'éponge, dans les décombres de vos détails. Et j'étais Roxane, j'étais Roxane. J'étais en dessous sur le ciliacule.
Question de la semaine. Comment combattre la pauvreté chez les personnes en situation de handicap? La solution passe-t-elle par l'instauration d'un revenu de base?
En réponse à la question de cette semaine, je vous lis quelques interventions glanées sur nos réseaux sociaux par Christiane Campagna. Patrick Fougerolas a écrit « Oui, mais un revenu garanti, un revenu minimum garanti, plus haut que le seuil de pauvreté et le droit de travailler sans pénalité. On y est presque. » Micheline Guinard, c'est quoi cette fichue manie de taper sur la tête des plus démunis et des plus vulnérables ? Écœurant. Et pour finir, Lisa D'Amico a écrit « Actuellement, le projet de loi 173 concernant le soi-disant revenu garanti est un sophisme qui tue et trompe le peuple, notamment parce qu'il n'est pas inconditionnel ni universel. Contrairement, par exemple, aux prestations de l'IVAC, IVAC, qui sont attribués sans condition de ressources et sans égard à la vie maritale, alors que les allocataires de l'IVAC n'ont pas payé de cotisation au préalable. Alors, pour continuer à réfléchir, je vous réfère à de bons liens pour mieux comprendre la question du jour. D'abord, pour comprendre ce qu'est un revenu de base, comme le présentait aujourd'hui le collectif pour un Québec sans pauvreté, ça ressemble au revenu de citoyenneté qui était proposé par Michel Chartrand et d'autres. D'ailleurs, vous pouvez obtenir le livre audio adapté au SQLA qui s'intitule « Manifeste pour un revenu de citoyenneté », écrit par le syndicaliste feu Michel Chartrand et Michel Bernard. Ce revenu, tel qu'on le décrit aussi, est aussi décrit sur le site revenudebase.québec. Et on en parlait avec Madame Vézina, il y a aussi ce qu'on appelle les compensations liées aux déficiences. Ça, c'est ce qu'il en coûte en plus pour payer des services qui ne sont pas garantis pour l'État, qui ne sont pas garantis par l'État ou qui le sont, mais qui payent. C'est ça, ce sont des gens qui doivent payer ces services et ce n'est pas pris en charge. Il peut y avoir notamment le déneigement qu'on a besoin de faire en hiver. Donc, je vous recommande de lire le précieux rapport de laboratoire de recherche sur les pratiques et politiques sociales de l'AREPS également, qui s'intitule « Identification des coûts supplémentaires généraux liés aux déficiences, incapacités et situations de handicap assumées par les personnes handicapées et leurs familles ». Alors voilà, c'était tout pour aujourd'hui. L'émission se termine. Pour avoir plus d'informations sur les intervenants et organismes qui sont venus ici, n'oubliez pas d'aller visiter la page de l'émission « Accès libre » canalem.vusevoix.com. Cette émission n'a évidemment pas pu être possible sans le soutien de Christiane Campagna aux communications, Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, Benoît Rastette à la réalisation. Ici Anne-Laure Janson, on se reparle la semaine prochaine et d'ici là, on veut un accès libre en terrasse au soleil.